Radio Okapi.
La sortie officielle de l'Union sacrée de la nation attendue ce samedi au stade des martyrs de Kinshasa. Les membres de cette plateforme politique ainsi que les militants continuent à affluer vers le stade où l'événement devra débuter avant 16h. Un nouveau pont aérien humanitaire pour les déplacés du Nord Kivu. Cette aide porte à 260 tonnes d'assistance de l'Union européenne aux déplacés de guerre dans la région. L'invité de ce journal s'appelle Simon Zono Ingalea. Il vient de Bukavu. Il est le directeur de la province éducationnelle Sud Kivu. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzi Tukabambi. Sortie officielle de l'Union sacrée de la nation ce samedi au stade des martyrs de Kinshasa. Tous les regroupements, partis et personnalités politiques de cette plateforme se sont donné rendez-vous pour marquer d'une manière particulière l'événement. Jusqu'à cet après-midi, ce sont encore des marées humaines venant des différentes directions qui convergent vers le stade des martyrs. Notre reporter sur place, Jacques-Yves Moulima, a été joint il y a quelques heures. Voici l'ambiance qu'il a décrit.
Le boulevard Triomphal, les avenues Kassavubu et Ouléry, les encablures du Palais du Peuple et toutes les autres avenues autour du stade sont inondées de monde. Se frayer un passage pour fouler l'intérieur du stade est un exercice que je ne vous souhaite pas. Chaque parti politique s'active à sa manière pour marquer sa présence. Les uns avec de la fanfare, les autres avec les instruments de musique montés sur des véhicules et tous arborant des insignes, des drapeaux de leur formation politique et même des t-shirts à l'effigie de leur leader. Ils se rivalisent tous d'ardeur dans un combat sans merci pour la réussite de l'événement. À l'intérieur du stade, la tribune aux couleurs du pays est à la hauteur de l'événement. Les cadres et membres des partis font leur entrée et prennent place à la tribune sous les chants des membres sympathisants qui continuent eux aussi à envahir le gradin. Il faut dire enfin que l'ambiance à l'extérieur ne permet pas l'accès facile au stade. Toutefois, la police est totalement mobilisée dans tous les coins pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incident. Depuis l'entrée de stade de martyrs, Jacques-Yves Molima Aouta, Radio Okapi.
Parlons encore politique avec le remaniement du gouvernement provincial du Sud Kivu qui a été rendu public dans un arrêté provincial lu sur les ondes de la RTNC Sud Kivu hier vendredi. Le gouvernement Théongwabidje III comprend 10 ministres et 5 commissaires généraux. Jean Kassami pour les détails.
Parmi les ministres nommés figurent certains anciens du gouvernement sortant, d'autres sont tout simplement des nouveaux venus, parmi lesquels un député provincial. Seuls deux ministres maintiennent leur fauteuil, à savoir celui de l'urbanisme, habitat, affaires foncières et son collègue de transport, voies de communication et tourisme. Celui qui était secrétaire exécutif du gouvernement sortant devient ministre des infrastructures et travaux publics et aménagement des territoires. Le ministère de la Santé et Affaires coutumières est confié à une dame jadis commissaire du genre, famille et enfants. Sont carrément remplacés les ministres de l'Intérieur, celui des Finances, du Plan, de l'Éducation et celui de l'agriculture, pêche et élevage. Ce remaniement intervient dans un contexte de crise profonde entre l'exécutif et l'organe délibérant de la province du Sud Kivu. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Et puis la plénière à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, prévue hier vendredi, a été reportée. Elle devait porter sur la question orale avec débat adressé à la gouverneure du Tanganyika. Pour l'auteur de cette question orale, cela est lié à certaines irrégularités constatées dans la gestion de cette province. Mais l'autorité provinciale a demandé un moratoire d'une semaine pour raison de santé. Paul Amunanga.
L'auteur de cette question orale avec débat veut connaître comment la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungwa, gère des sommes d'argent affectées dans différents secteurs. C'est notamment les montants reçus par la province du Tanganyika émanant du gouvernement central et ceux provenant des recettes à caractère provincial en faveur des entités territoriales décentralisées. Certaines préoccupations sont liées à la gestion des fonds utilisés pour le forage des 20 puits annoncés par la gouverneure ou la réhabilitation des routes. Par ailleurs, le le député Kakudjiwama pose à la gouverneure du Tanganyika la question de savoir pourquoi elle n'a pas inséré le crédit de 10 500 000 dollars américains qu'elle a sollicité à la Royal Bank Kinshasa dans le budget de 2023 comme dette intérieure. Pour l'auteur de la question, il est important que l'autorité provinciale réagisse à tous ces griefs qui lui sont reprochés. Kakudjiwama.
Son Excellence, Madame la gouverneure, qu'elle nous fournisse quand même des réponses par rapport aux griefs qui lui sont reprochés. Les gens se plaignent, alors ils sont venus se plaindre chez nous. Nous aussi, nous devons aller vers elle pour demander des réponses par rapport à la préoccupation de la population.
La gouverneure Julie Ngungwa est attendue le 8 mai prochain à l'Assemblée provinciale du Tanganyika pour répondre à cette série de questions. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
De l'aide pour les déplacés du Nord Kivu, le gouvernement provincial a reçu hier un lot d'une trentaine de tonnes de fournitures essentielles, dont de l'Union européenne et de la France. Ce pont aérien humanitaire porte à 260 tonnes l'aide de l'Union européenne aux déplacés de guerre dans la région. Il a été acheminé par le directeur général de la protection civile européenne et des opérations d'aide humanitaire, Maciej Poponski. Les détails avec Bernard Nyangi.
Le directeur général de la protection civile européenne et des opérations d'aide humanitaire, qui a remis ce don au gouverneur militaire et son comité provincial de sécurité, a témoigné la solidarité de l'Union européenne envers la population de la région qui fait face aux nombreux défis occasionnés par des conflits armés en province du Nord Kivu et dans l'Est de la RDC en général. Le vol d'hier vendredi est le 7e d'une série de 2 phases du pont aérien humanitaire initié depuis le 9 mars dernier par le président français Emmanuel Macron et le commissaire européen. Au total, 260 tonnes de fournitures essentielles composées de médicaments, matériel nutritionnel, des vivres et des non-vivres sont déjà cheminées à Goma. Ces fournitures sont délivrées aux partenaires humanitaires opérant au Nord Kivu pour la distribution aux bénéficiaires. Le gouverneur militaire Constant Dima a remercié l'Union européenne et la France pour ce don. Il estime que ceci va tant soit peu atténuer la souffrance de ses compatriotes qui, selon lui, n'attendent que le retour de la paix pour rentrer chez eux. Goma. Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu, où la société civile Force Vive de la province salue la démission du commandant de la force de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, et invite le gouvernement congolais à s'assumer en tant qu'État. Pour son premier vice-président, ce que la population attend de la force de l'EAC est très différent de ce qu'elle est en train de vivre sur le terrain. Edgar Matesso constate que cette force est plutôt une force d'interposition, tout le contraire d'une force offensive. Les populations souhaitent la voir combattre les groupes armés, notamment le M23. Edgar Matesso est joint au téléphone par André Kitenge.
Cette force avait été annoncée comme une force d'imposition de la paix, mais nous constatons que ça devient une force d'interposition. S'il démissionne parce que lui-même est convaincu qu'il devrait faire une imposition de la paix, et à la suite des impositions, des intimidations dont ils sont victimes, on lui exige de faire l'interposition, alors il faut l'encourager à démissionner. Les constats sur terrain, c'est que les M23 reste là, le M23 n'est pas combattu, n'est pas attaqué, n'est pas contraint à déposer les armes, alors que cette force était venue pour imposer cette paix. Et au niveau de la société civile, nous continuons à exiger que le gouvernement congolais s'assume à tant qu'État et que tous ceux qui viennent comme partenaires des pays amis, des forces amies qui viennent à la rescousse de la RDC doivent se ranger dans la logique de pouvoir aider le pays à s'en sortir.
L'histoire de la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Congo, quelles leçons pour l'avenir? C'est le thème de la conférence animée hier à Kinshasa par le professeur Isidore Ndayuel. Organisée par le Centre d'études pour l'action sociale CEPAS et les mouvements citoyens, cette rencontre citoyenne avait pour objectif d'outiller les Congolais sur la connaissance de leur histoire. La rencontre est intervenue après les dernières déclarations de Paul Kagame à Cotonou au Bénin sur les terres qui appartiendraient au Rwanda et que ce pays devrait récupérer de la RDC. Pour ce membre du comité laïque de coordination de l'Église catholique, les frontières du Congo-Kinshasa font partie des plus anciennes de l'Afrique et sont incontestables. Et avec preuve à l'appui, l'historien congolais a soutenu que c'est plutôt la RDC qui a des terres à réclamer au Rwanda. La grande leçon, c'est que tous les Congolais doivent s'engager pour leur pays et continuer à se battre pour son intégrité par une responsabilité individuelle et collective. Éclairage Jean-Désiré Kanyama.
Comment prétendre aimer et gérer la RDC quand vous n'avez pas de connaissances sur son histoire? Question du professeur Isidore Ndaiwel.
Les réalités de notre pays constituent véritablement quelque chose qui nous préoccupe tous. Nous sommes en présence d'une longue histoire de résistance.
Et pourquoi alors cette instabilité continuelle?
L'instabilité du Congo se trouve inscrite dans sa situation particulière, n'ayant jamais cessé d'être au cœur des stratégies mondiales de l'économie et de la défense. Terre d'enjeu, le Congo est donc par définition une terre de combat.
Ce membre influent du comité laïque de coordination appelle ses compatriotes à aimer l'histoire de la RDC.
Il faut également cultiver le civisme.
Aussi, a dit l'historien congolais, il faut passer d'un pays en quête d'État à un État ayant la maîtrise de sa situation.
Il faut d'abord exister en tant qu'État.
La RDC doit ipso facto revoir son organisation sur plusieurs points, dont son identité et son administration. Aussi, propose le professeur Isidore Ndaiwel, ce pays a besoin d'une nouvelle constitution qui tient aussi compte de l'expérience des Congolais.
Des mobiliers, des fournitures de bureaux et $600 américains pour le loyer. Le gouvernement provincial du Maniema a remis cette dotation à Kindu le jeudi 27 avril au Conseil provincial de la jeunesse. C'est dans le souci de matérialiser la demande du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, d'encadrer la jeunesse. La cérémonie de remise a eu lieu au gouvernorat de province sous la direction du ministre provincial de la Santé, assurant l'intérim du gouverneur intérimaire en mission. Depuis Kindu, Florence Kizalunga.
Le Conseil provincial de la jeunesse est un organe de coordination des représentations de la jeunesse congolaise. Il mène de plaidoyers en faveur des associations et mouvements de jeunes. Cette structure procède également au renforcement des capacités de ces derniers dans plusieurs domaines. Le Conseil provincial de la jeunesse joue aussi les rôles d'interface et d'interlocuteur entre le pouvoir public et la jeunesse. C'est dans cette optique que le gouvernement provincial appuie cette structure au Maniema. Docteur Kibungi Mutanga Junior.
Cette dotation constitué des mobiliers, des bureaux, quelques fournitures de bureaux, ainsi que les fonds pour le paiement des loyers du bureau provincial du Conseil de la jeunesse. Justement, comme le demande le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, d'encadrer la jeunesse, c'est pourquoi le gouverneur de province vient de montrer ses gestes de générosité envers ce Conseil provincial de la jeunesse pour que ces derniers puissent avoir d'abord un bureau qui va leur permettre d'organiser l'administration afin de mener les activités dans l'encadrement de la jeunesse de la province du Maniema.
Une surprise agréable pour le Conseil provincial de la jeunesse qui existe au Maniema depuis 2003. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Soudan, les affrontements entre les forces armées soudanaises FAS, dirigées par le général Bourhan, et les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR du général Emeti entrent dans leur troisième semaine. La médiation entreprise par le président sud-soudanais Salva Kiir au nom du bloc régional IGAD a permis le renouvellement jeudi soir du cessez-le-feu pour 72 heures. Un accord de principe du général Al-Bourhan pour des pourparlers a été confirmé hier par le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères par intérim à Juba, mais le ministère des Affaires étrangères à Khartoum nie cette approbation.
L'invité.
Notre invité vient de Bukavu. Il est le directeur de la province éducationnelle Sud Kivu 1, Simon Zono Ingalea, parle de l'importance de la journée porte ouverte qu'il a organisée hier avec les chefs d'établissement scolaire et les partenaires techniques et financiers de son ressort à l'occasion de la célébration de la journée de l'enseignement à RDC. Simon Zono Ingalea s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur le directeur provincial de la province éducationnelle du Sud Kivu 1, Simon Zono Ingalea, bonjour.
Bonjour.
À l'occasion de la commémoration de la journée de l'enseignement, aujourd'hui, au Sud Kivu, vous avez préféré regrouper les chefs d'établissement.
Dans le cadre de la commémoration de cette fête dédiée à l'enseignement, il nous a été recommandé par notre hiérarchie l'organisation de plusieurs activités au nombre desquelles les journées portent ouvertes, mais aussi des conférences et la clôture des tournois ou des championnats interscolaires. Aujourd'hui, j'ai estimé qu'il était impérieux de pouvoir tenir une conférence et moi j'ai choisi pour thème la mutualisation des actions de l'État et des acteurs non étatiques pour une éducation inclusive, holistique et de qualité de la jeunesse de la province éducationnelle du Sud Kivu 1.
Et pourquoi le choix de ce thème?
Parce que l'éducation, c'est une œuvre exaltante, noble, mais qui nécessite beaucoup de ressources. L'État seul ne peut pas arriver à réaliser toutes les tâches qui lui sont assignées pour mener à bon port l'éducation de la jeunesse, qui est le socle du développement de la nation. Ainsi, à la faveur des traités internationaux, à l'instar de recommandations de la conférence d'Oslo en juillet 2015 et à la lumière également de la loi cadre de l'enseignement national de notre pays, en ses articles 20 et 21, notre État a signé des accords de partenariat aussi bien avec les partenaires techniques et financiers, mais aussi avec des partenaires éducatifs, pour arriver ensemble à mutualiser leurs efforts, à travailler en synergie pour le seul objectif d'offrir à la République une élite qui prendra en charge son développement demain. Et cela passe aujourd'hui par une formation de qualité inclusive à assurer à la jeunesse.
Alors, comment appréciez-vous personnellement l'apport de partenaires dans l'amélioration des conditions de l'enseignement au Sud Kivu?
Je dois sincèrement vous dire que je suis très ravi de dire que la province éducationnelle du Sud Kivu a une opportunité lui offerte par une avalanche de partenaires techniques et financiers, ce qu'on ne trouve pas forcément sous d'autres cieux dans notre pays. En dehors de l'UNICEF, vous avez beaucoup d'ONG internationales, même des ONG du niveau national, qui viennent en appui à l'État congolais pour la formation de sa jeunesse. En dehors de l'UNICEF, je citerai World Vision, Save the Children, TPO, FH. Eh bien, la liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que les gens viennent et ils apportent effectivement des appuis en matière soit de la construction des bâtiments scolaires, leur équipement, ils apportent leurs interventions en faveur de l'éducation des enfants grâce à la formation continue des enseignants et des chefs d'établissement et même des inspecteurs. Et donc, nous devons saluer cette synergie-là parce que aussi, il faut mettre en relief le fait que, au Sud Kivu, l'État congolais a suffisamment investi en matière de l'éducation.
Pour dire que les besoins de l'enseignement dans votre province éducationnelle sont assouvis.
Dire qu'ils sont assouvis, ce serait trop dire parce que l'éducation, au fait, c'est un processus. Nous avons fait beaucoup d'avancées, nous avons engrangé beaucoup de résultats assez costauds, mais il y a des challenges que nous devons continuer à relever.
Quels sont ces défis-là, les défis majeurs du moins?
Nous avons 4510 écoles au total. Mais le taux d'écoles construites en dur oscille autour de 64%. Donc nous avons encore au moins 36% d'écoles dont les bâtiments sont construits en matériaux périssables.
Monsieur le prophète de Simon Zono Ingaleya, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie, Jean-Christophe.